Et à propos de ça, en fait, à titre d'expérience personnelle, en fait, quand j'avais 12 ans, j'étais bien classée, etc. Et une fois, on est venu me voir dans le collège pour me dire, bon, ce week-end, tu as un événement culturel. Mais personne ne m'a dit ce que c'est, ce que c'est. Et finalement, derrière, c'était le fait que j'allais voir le président et que j'allais lire un discours. Et en fait, la veille, on m'a ramené un discours. Franchement, j'avais 11 ou 12 ans, mais le discours était très, 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 très lent. Et on m'a dit, allez, tu dois le lire et tu vas nous dire surtout à la fin si tu es convaincu ou pas. En fait, c'est ça. En fait, c'est vrai, ils ont remarqué que quand même, je suis issue d'une famille moyenne, ça va, je vis bien, mais ils voulaient quand même savoir mon avis. Parce que peut-être derrière, j'ai un père qui a des mouvements politiques, etc. Donc on m'a dit, est-ce que tu es convaincue de ce que tu es en train de lire? Alors que j'étais une petite fille quand même. Et voilà, quand ils ont senti en fait que voilà, est-ce qu'on est convaincu de ce qu'on dit, et là, ils vont dire, ok, demain, vous allez lire. Mais ils ont posé la question et surtout, ils nous ont rien dit avant. 2 jours avant, au collège, on m'a rien dit. On m'a dit juste, tu as un événement culturel. On m'a pas dit que tu vas voir le président, alors que dans un autre pays, je supposerais qu'on aurait dit à la personne, tiens, tu vas voir le président ce week-end, tu vas lire quelque chose. Mais non, on m'a pas dit en fait.
Et tu l'as lu.
Ah oui, je l'ai vu en fait, c'est à l'âge de 12 ans, j'ai lu le texte devant lui, etc. Bah, je peux pas dire non.
C'est justement, en fait, c'est cette propagande qui faisait un peu. Jusqu'avant le 14 janvier, on voyait dans le journal de 20h des petites filles qui chantaient à la gloire du président. Et ça, c'était énervant. Parce que tout le monde, 99% des Tunisiens, savait que c'était pas vrai, quoi. C'était monté. Et voilà, c'est d'arriver à un point que tu ne pouvais plus continuer comme ça. Jusqu'au...
Je vais vous un peu poser une question comme ça pour décortiquer. Hein. C'est-à-dire, quand vous expliquez qu'à un moment donné, il y a un pouvoir qui intervient dans la répression, la manipulation, et en même temps une société parallèle qui, à travers les réseaux, construit une communication, et ça renseigne, etc. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pratiquement, il avait une double communication, c'est-à-dire une double information qui circulait dans la société, la société était irriguée par ce système Facebook, les réseaux, Internet, etc. C'est là que s'est construit une contre-information, disons, ou pas? Comment tu peux... quelle est la dimension par rapport à tout ça? Parce que l'idée est la suivante, comme tu sais bien, hein, c'est-à-dire in Europe on a une vision, c'est-à-dire c'est l'Europe et les États-Unis. Hein, donc on pense que tout le reste ne passe rien, hein, c'est-à-dire ça suffit que tu te déplaces et tu le regardes de bas vers le haut pour comprendre qu'il y a une grande banalité, c'est vraiment une stupidité. C'est pour ça que soit les Antelos, soit tout autre personnage de gauche ici n'aurait jamais imaginé qu'un peuple peut faire encore la révolution. Comprenez? Parce que eux ont décidé que c'est fini la révolution, les autres ne doivent pas la faire. C'est ça un peu le désastre des derniers 30 ans en Europe. Hein? C'est ça. Donc, la chose que je voulais comprendre est comment, c'est-à-dire, ce peuple s'est approprié de cet instrument. Parce que, je veux dire, c'est des instruments qu'on trouve partout. Mais quelquefois, on donne l'impression qu'ils sont plutôt utilisés dans le monde occidental où il y a les réseaux, etc. Donc, comment s'organise par rapport, par exemple, cette idée que la répression déclenche l'apprentissage à la découverte de l'information à travers les réseaux. C'est ça.
Ouais,
c'est...
Juste un chiffre, en Tunisie, il y a 1 million de membres sur Facebook, hein, sur une population de 10 millions. Donc, encore il y a quelques mois, c'était le premier pays arabe en nombre de connectés sur Facebook, en membres. Hein. Et pas en pourcentage, en nombre. Je ne sais pas aujourd'hui si...
Oui, mais c'est un rapport un peu avec le nombre de gens qui ont Internet aussi en Tunisie,
oui,
parce qu'il est assez élevé par rapport à d'autres pays arabes.
L'accessibilité d'Internet en Tunisie, elle est assez élevée.
C'est
donc,
le nombre de téléphones mobiles aussi.
Aussi,
ouais,
presque plus que un par habitant. Donc forcément, c'est vrai que... Il y a une couche moyenne en Tunisie, hein. c'est pas Ben Ali qui l'a faite, mais depuis Bourguiba, contrairement aux autres pays arabes, la couche moyenne elle est assez large, elle est en train de se rétrécir, hein, depuis quelques années, mais elle existe quand même. Hein. Des familles qui ont enfin, Internet, qui ont accès, qui peuvent acheter des ordinateurs. Donc, comme vous le dites, il y a eu une information parallèle à ce qu'il y a dans les journaux ou dans la télé officielle.
Dans ce sens-là, aussi, l'accès à la formation, l'université, la formation, même si officielle, mais aussi la formation populaire, comment la situation des étudiants c'est-à-dire l'accès au savoir à l'université officiellement, et si c'est limité là, où s'apprendre les choses. C'est-à-dire, c'est laquelle la...
Les informations sur...
Oui, l'information, oui. C'est comment les événements... passer l'information dans la société. Il y a une formation universitaire ou scolaire qui c'est bon et c'est accessible à partout.
La formation.
En formation, oui. Ou c'est autre chose.
Non, elle est accessible, la formation. Justement, les régions dont il parlait, les régions très pauvres, les gens là qui ont manifesté, les premiers qui sont sacrifiés... Ce sont des gens qui ont fait l'université, hein. C'est pas des le mec là qui s'est immolé par le feu, il a quand même le bac, c'est-à-dire l'accès, l'enseignement en Tunisie, il est quand même gratuit. Donc les gens, même des couches populaires, les plus modestes, ont accès à l'université. Je pense que c'est quand même un élément très important à cette révolution, hein, parce que tu as une jeunesse qui est consciente. Et qui sait que c'est la dictature qu'elle est en train de vivre, et ils savent où ils veulent aller. Donc c'est ça, à mon avis.
Donc, le nombre des gens dans l'université, par exemple, c'est plutôt haut.
Oui, très haut. Et forcément, par conséquent, le nombre de chômeurs diplômés est très important.
Ouais.
C'est ce qui a fait. C'était une parmi les causes de cette révolution aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui ont une maîtrise et qui sont au chômage depuis 5, 6, voire 7 ou 8 ans. Hein.
Ouais.
Donc moi, personnellement, j'ai mon cousin qui a une maîtrise de lettres et qui est au chômage depuis 10 ans. Donc il travaille comme chauffeur aujourd'hui.
Si j'ai bien compris, il y a la base de la composition sociale de cette révolution, hein. Ce qui est appelé avant une couche populaire demander du pain, il y a après une couche moyenne intellectuelle des professions libérales qui demandait de la liberté. Après, on voit que là, la troisième composante, disons, sans doute disons, la plus importante, est représentée par cette intellectualité diffuse sortie des universités qui se trouve dans une situation déclassée. Alors, quelle est sa revendication et quel est le modèle de société disons, qui peut sortir disons, de tout cela disons, aujourd'hui en tenant compte disons, de ces trois composantes, du fait que la composante disons, des jeunes disons, très formés disons, et déclassés et hégémoniques dans l'organisation de la révolution, mais est-ce qu'il pourra être encore hégémonique disons, après, et si oui, quel est le modèle de société dont elle voudrait, disons, être porteuse s'il y a un tel modèle de société qui ressort. C'est quoi, c'est un modèle fondé sur le développement des services collectifs, sur la santé, sur l'éducation. C'est vers quoi, disons, on veut aller.
À mon avis, on ne sait pas. Hein. Personne ne sait. Parce que cette société, même ces jeunes Tunisiens-là, ils sont, à mon avis, hein, pour la plupart, ils ne sont pas politisés. Ils n'ont pas de culture politique. Pour la plupart. Je ne dis pas tous, mais pour la plupart. J'ai lu hier même un sondage en Tunisie. Je pense que 70% de Tunisiens, des jeunes, ne connaissent aucun parti politique tunisien. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient un modèle bien précis. D'ailleurs, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de partis qui essayent de surfer sur la vague ou de s'approprier un peu le mouvement. Mais le mouvement, il n'a pas de leader, il n'a pas de modèle. Ça, c'est un fait. Il n'a pas de modèle. C'est des revendications qui se rejoignent. Tout le monde veut la liberté, veut la dignité, mais je ne pense pas, à mon avis, hein, qu'il y ait un modèle bien précis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas.
Moi, je pense que cette révolution, en fait, n'a pas épargné un village de la Tunisie ou une ville de la Tunisie. C'est ça la caractéristique. C'est pas ça, c'est une révolution à Tunis ou c'est une révolution, c'est partout. Moi, j'habite dans un petit village, j'appelle mes parents, ils me disent, maintenant, c'est en train de péter, il y a plein de trucs, les jeunes, ils sont en train de faire ça. Et après, ça éclate dans le sud, après, ça se calme un peu dans le sud, ça éclate dans le nord. C'est ça qui a fait que c'était une situation incontrôlable. Une situation incontrôlable avec l'armée qui s'est quand même ralliée au peuple parce qu'elle n'a pas tiré sur les citoyens, et en arrière de fond la politique américaine, parce qu'on n'en parle pas, mais bien sûr les pressions américaines de Obama qui ont quand même fait en sorte, encouragé le général Rachid Ammar à ne pas soutenir Ben Ali, tout simplement à l'écarter. Donc la politique, c'est important aussi.
Parce... Comme maintenant par rapport à l'armée égyptienne, c'est ça?
C'est effectivement, c'est une grande question. Aujourd'hui, bon, alors est-ce que l'Égypte va transformer l'essai ou pas? Moi, je pense que ce que l'Égypte. L'armée égyptienne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle soutient Moubarak, mais jusqu'à quand? Moi, je pense qu'à un moment donné, dans une révolution, il y a un prix à payer. L'Égypte, aujourd'hui, n'a pas payé le prix fort pour vraiment renverser Moubarak. Et tant que ce prix n'a pas encore été franchi, parce que Moubarak, il est fort, il tiendra sa position, c'est comme l'élastique. Lui, il tient. Soit tu tiens de l'autre côté, soit tu lâches, soit tu lâches pas. Si tu tires très fort, tu pourras faire en sorte que ça lâche. Et les Égyptiens, aujourd'hui, étant dans un pays quand même où il y a une minorité chrétienne, où il y a les frères musulmans, où il y a des dangers de que ça bascule un petit peu dans le chaos, je pense qu'ils sont un petit peu réticents et ils se disent, mais au fin de compte, nous, c'est peut-être pas la Tunisie, on va peut-être pas aller jusqu'au bout. C'est ça la petite différence.
Je pense que, puisqu'on parle de l'Égypte, le rôle de l'armée n'est pas pareil, hein, parce que c'est pas l'armée qui va dire à Moubarak dégage, même si Moubarak il saute demain, ils vont mettre quelqu'un de l'armée, parce que c'est l'armée qui contrôle tout en Égypte depuis. Donc c'est pas le même cas qu'en Tunisie, dans l'armée a toujours été loin de la politique. Donc moi j'espère pour les Égyptiens qu'ils aillent jusqu'au bout, mais je suis pas très confiant, parce que à moins qu'il se passe des événements encore plus graves que. Mais le mouvement là,
j'interviens parce que tu m'as dit que toi-même tu avais après les derniers discours, en entendant les derniers discours de Ben Ali, tu avais eu un petit doute parce qu'en plus il avait organisé une manifestation qu'on ne comprenait pas bien. Ouais. Et quand tu es allé sur Facebook, tu as vu les réactions sur Facebook et tu as compris qu'il ne pouvait pas rester, qu'il serait parti. C'est comme ça que ça s'est passé.
On est arrivé au deuxième discours. Donc les manifs ont continué après le deuxième discours. Et le 13 janvier, la situation elle est devenue vraiment critique. Donc discours de Ben Ali, c'était la dernière carte.
C'est la première fois.
Apparemment, c'est comment il s'appelle, Jacques Séguéla qui est venu le conseiller pour son dernier discours. Ouais, c'est vrai. Hein. La première fois, c'était vraiment un très bon discours. Hein. C'était vraiment, il y avait des gens qui ont pleuré parce que il faisait pitié. Il a parlé en dialecte tunisien. C'était la première fois qu'il parle comme tout le monde. D'habitude, il parle l'arabe littéraire. Et il fait toutes les concessions possibles. Il ne va pas se présenter, il va donner toutes les libertés. Et il y avait des gens qui étaient en quelque sorte un peu partagés, qui étaient contents. Et ils ont dit finalement, bon, on a gagné pas mal de choses. Ils entendaient les klaxons dehors. Et à la télé, ils ont dit, voilà, on va faire la fête, c'est bon, Ben Ali, c'est un nouveau changement. On va soutenir Ben Ali. Les gens dans la rue qui défilaient avec des drapeaux, avec les photos de Ben Ali. Moi j'étais pas... Je vais directement sur Facebook. Et il y a des vidéos qui commencent à sortir qui disent que les gens là, tous les gens là, ce sont des gens du RCD qui avaient tous les mêmes voitures louées. C'était organisé. C'était juste qu'ils ont organisé tout ça pour avec une émission spéciale à la télé. Tout était bien synchronisé. Et les gens, ils ont tout de suite compris que c'était un coup monté encore, une pièce de théâtre, quoi.
Et Moubarak, c'était les chameaux et les chevaux, c'est ça? Voilà.
Mais c'est pas la première fois qu'ils font ça en Égypte. Hein. Apparemment, ils ont fait ça même avant, à l'époque du roi Farouk et tout ça. Ils ont utilisé ça comme méthode pour...
Pour répondre à... Continuer à répondre à la
question. Question.
Je vais peut-être jouer un peu d'œuvre du diable, mais franchement, ce qui m'a étonné dans l'histoire, c'est qu'il y avait si peu de violence et si peu de morts dans l'histoire. Quand vous dites, par exemple, que le Tunisie était disposé à payer le prix du sang, je suppose, moi, au contraire, j'étais étonné par le fait que tout ça s'écroule avec si peu de morts.
C'est 219.
Il y a quand même d'autres pays arabes où il y a eu des soulèvements. Je pense à la Syrie, il y a une vingtaine d'années, etc. Il y avait des dizaines de milliers de morts et les régimes sont restés en place. Hein. Et par contre, en Tunisie, l'armée n'a pas bougé, qui est quand même étonnant. Contrairement à mon avis, à ce qui se passe en Égypte, c'était vraiment menacé. Ce qui m'a touché à demander, parce que la comparaison qui était faite avec le régime de l'Est, je me dis que finalement, les régimes de l'Est, il n'y avait plus de base sociale pour le régime. Maintenant, il y avait, il y a 50 ans, 60 ans, 40 ans, une base sociale qui existait pour le régime de l'Est, mais au moment de l'écoulement, il y en avait plus.
Il y a un parallèle, c'est-à-dire le pays de l'Est est un pays comme, un peu comme la Tunisie, c'est-à-dire qu'il y avait une société civile extrêmement cultivée. Et toute la propagande de l'Est, c'est ça l'intéressant, a toujours démontré ces pays comme des pays morts, comme l'idée par rapport au monde arabe, etc. C'est-à-dire qu'une société civile, malgré qu'ils sont des pays de décivilisation, ne marche pas, c'est faux.
Oui, mais ça a quand même pris 40 ans pour arriver. Hein, ouais, donc, au début, non, c'était dans la question. Quand moi je me pose, par rapport à la Tunisie, c'est que je. Ils savent, comme expérience personnelle, moi j'étais au Chili en 82. Quand il y avait des manifestations de masse contre le régime, il y avait 90 morts par balle dans une seule minute, et le régime n'a pas bougé. Hein. Il y avait l'armée dans la rue, c'était fini. Et je ne sais pas combien de morts il y a eu. En plus, il y avait des manifestations tous les mois au Chili.
219.
Il y avait 15 morts, et ça ne tombait pas. Donc la question pour moi, c'est que est-ce que le régime avait un moment donné, au début, puis il y a 20 ans, 30 ans, une base sociale, comme il a réussi à perdre cette base sociale, s'il en avait. Et deuxièmement, pourquoi l'armée n'est pas intervenue? Parce que c'est quand même un peu étonnant. Parce que ce qui se passe en Égypte est intéressant, parce que c'est clair que l'armée n'a pas dit à Moubarak qu'il faut partir. Au contraire, on a l'impression qu'ils sont en train de dire une certaine concession, mais on n'essaie pas de pousser vers la porte tout de suite. Donc, premièrement, comment ça se fait qu'il y a zéro base sociale pour l'Égypte? Parce que. Pas trop long, mais par exemple au Chili, par exemple, ils avaient une quasi-révolution en 72-73. Il y avait beaucoup de monde qui avait peur de la révolution, qui était avec Pinochet jusqu'à la fin, qui représentait à peu près la moitié du pays. On pense à l'Espagne, au Franco, avec des appuis jusqu'à la fin, et ils m'ont reconnu.
Il y avait le mur de Berlin, quand même. Il y avait le mur de Berlin, c'est-à-dire que le monde était divisé en deux, maintenant,
oui,
non.
Mais pour Pinochet, c'est moins significatif, parce qu'effectivement, il y avait le mur, mais il y avait moins, et qu'il est tombé avant
la question est sur la...
Non, mais donc pour moi, cette absence de base sociale, apparemment presque totale de régime, et deuxièmement, le fait que l'armée n'a pas bougé, ça m'a laissé vraiment pris sur le coup.
Déjà, je pense que l'armée a joué un rôle très important dans la révolution tunisienne, ça c'est sûr. Déjà, dès les premiers jours des émeutes, on a entendu que le général de l'armée de terre tunisien, il a été assigné à résidence. Avant même que la situation dégénère, dès les premiers jours. Il y avait des rumeurs dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à certains moments, il a refusé de tirer sur les gens ou d'aller dans la direction. Mais pourquoi, justement? Déjà, je ne sais pas, je peux pas dire pourquoi. Peut-être qu'il y a eu des pressions étrangères. Il y a des rumeurs dans ce sens-là. Peut-être les États-Unis qui l'ont appuyé. Parce qu'il y a eu un incident diplomatique entre la Tunisie et les États-Unis au début des événements. C'est-à-dire que l'ambassadeur tunisien aux États-Unis, il a été convoqué au début pour la censure d'Internet et la Tunisie a répliqué en convoquant aussi l'ambassade américaine en Tunisie. Ça, je pense que ça n'a pas été bien vu par les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont fait la pression. Ça reste une piste. Après, je ne sais pas. Il ne faut pas comparer avec l'Égypte, parce que l'Égypte, je pense que c'est l'armée qui contrôle le système politique en Égypte, contrairement à la Tunisie, où l'armée a toujours joué un rôle qui était toujours loin, depuis l'époque de Bourguiba, qui était loin de la politique, où l'armée n'a pas joué, n'a pas fait une vraie guerre, n'a pas fait de guerre d'ailleurs du tout. C'est pas comme l'Égypte où l'armée elle est vraiment à contrôle un peu tout. Hein. C'est pas du tout pareil. Mais je suis d'accord que l'armée a joué un rôle dans cette révolution. À un moment donné, il a refusé de tirer sur les gens, le général, et il a demandé à Berli de dégager le 14 janvier. Mais je ne sais pas dire pourquoi il a fait ça.
Et la base sociale du régime, comme il se tient pendant 20 ou 30 ans, sans que personne soit d'accord, c'est, au moins au début. C'est
la peur.
Qui soutenait ce régime au moins dans
des profiteurs. Au moins, c'est des profiteurs. C'est des gens qui profitaient du système. Qui se permettaient de venir, même en France, dire qu'ils croyaient en ce régime. Il y a l'économie aussi, qu'ils utilisaient comme un argument. C'est peut-être la réussite économique de la Tunisie.
Est-ce que c'est la crise économique globale a joué un rôle dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'il y a
Probablement.
Vous avez dit la classe plus ou moins plus religieuse,
probablement.
Tout ça. Et avec la crise, peut-être.
Ça a accentué, oui, ça a accentué le, forcément hein, la crise en Tunisie. Ça a été, elle a eu un impact hein, en Tunisie. Donc, peut-être aussi que la crise a accentué le, ce sentiment de la pauvreté pour c'est les couches les plus populaires, forcément. Il y a plusieurs raisons, je pense, que, qui ont fait que. Mais pour moi, hein, le point d'interrogation, ça reste le rôle de l'armée.
Moi, je pense que de toute façon, il y aura, enfin, dans quelques années, on va découvrir peut-être des choses, hein, WikiLeaks et autres, parce que l'histoire s'écrit toujours.
Enfin, WikiLeaks, c'est très important. Hein, donc, on a oublié d'en parler. WikiLeaks, au début, juste avant les événements, il y a eu les câbles de WikiLeaks et des informations très importantes sur la Tunisie.
Tunisie.
En gros, on parlait du neveu du président qui d'une visite de l'ambassadeur américain chez un neveu du président. Il parlait de sa maison, de la maison où il vivait. Il parlait d'une richesse indécente, quoi. Le mec qui lui rappelait justement, il disait qu'il le rappelait le fils de Saddam. Dans son indécence et dans son, il avait un tigre chez lui dans sa villa. Et les Tunisiens, ils ont lu ça. Donc ils ont lu ça. Je pense que ça a contribué aussi au mécontentement et au.
Moi, je pense qu'aujourd'hui.
J'ai une question, je voulais revenir. Je vais parler juste sur cette question-là. Je pense qu'il faut aussi voir que c'est des dans les forces qui participent au mouvement. On a parlé des plus pauvres, des classes moyennes, etc. Mais au sein de la bourgeoisie, il y a aussi. Ils sont scandalisés par un clan qui raquette.
Forcément.
Qui prend tout. Ils voulaient une villa, ils prenaient la villa d'un autre riche. Ils disaient, je te la prends.
Même la bourgeoisie.
C'est pas eux qui ont fait partir le mouvement. Ça, ils ont toujours stabilisé, toujours collé comme d'habitude. Et quand ils voient qu'il y a une possibilité de changement, il y a des factions qui sont allées, donc c'est la même chose qui est actuellement en Égypte. Il y a des estimations sur la fortune de la famille Moubarak. Et cette fortune est souvent faite aux dépens d'un autre clan, de bourgeois. Enfin, s'ils ont la possibilité de pouvoir s'emparer ce que l'autre a pris pendant 30 ans, c'est quand même 30 ans pendant lesquels ils ont piqué du fric à tout le monde, des propriétés à abuser. Je pense que quand il y a un tel mouvement, il y a toutes les factions de la classe dominante qui se disent, bon, c'est l'occasion d'abord de se comparer de ce que l'autre leur a pris, puis aussi de régler les comptes. Côté de l'armée, je pense que ça doit jouer aussi. Mais ça reste un peu un mystère, quel est le rôle des États-Unis dans cela. Parce que quand il y a eu le refus de tirer sur la population, ça n'a pas été une fraternisation véritablement où les soldats ont refusé d'obéir au commandement. Ça vient de l'état-major. L'ordre de ne pas le faire. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse, dès le début, il va y avoir Rachid Amar, je crois qu'il s'appelle, et le ministre des Affaires étrangères, qui tous les deux vont rester en contact permanent avec la Maison Blanche, et c'est eux deux qui vont demander spécifiquement à Ben Ali de partir.
Ouais, on a lu ça.
Sinon, moi, je voulais. Avant,
ça a été démenti aussi.
J'ai deux questions sur le début du mouvement. Il y a des pays où il y a le plus grand taux d'Internet, de téléphones portables, mais une classe moyenne cultivée et plus nombreuse qu'ailleurs. Mais il reste quand même une grande partie de la population qui est celle qui a le plus payé. C'est beaucoup sont quand même des gens très pauvres qui n'ont pas Internet. Comment se fait le lien? Est-ce que c'est dans la rue qu'arrivent des jeunes qui ont Facebook et qui sont informés de tout et qui. C'est dans la rue, dans les manifestations que l'information va se répartir. Est-ce que c'est à travers les comités de quartier? Ça aussi, vous n'avez pas parlé des comités de quartier.
Non, même les gens qui sortent dans la rue, qui ont été tués, ils ont accès à Internet. Hein. Les gens pauvres, là, qui sont sortis, ils ont filmé les manifs. Hein, c'est-à-dire l'accès à Internet, quand je dis 1 million sur une population de 10 millions, ça veut dire c'est énorme. Hein. Je pense que même les plus pauvres ont accès à Internet.
Avec les cafés Internet comme ça. Ouais. Au Maroc, moi j'ai vu beaucoup de jeunes qui n'avaient pas accès chez eux, mais qui allaient en bas dans les cafés Internet.
Même les plus pauvres, ils ont accès.
Même par rapport à ici en France, il y en a plus des accès publics à Internet dans la rue. Ici, peut-être on va mettre une heure pour trouver un. Mais en Tunisie, c'est surtout même dans les villes les plus pauvres, on trouvera avec des dizaines. Quoi.
Partout, même des centres publics. on paye 10 centimes et on a accès à Internet.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, effectivement, la révolution tunisienne s'est concrétisée par le départ de Ben Ali. Mais l'histoire des révolutions, il y en a eu avant Internet. Il y a des révolutions depuis la nuit des temps. Donc, de toute façon, c'est comment faire qu'un peuple, à un moment donné, les gens ils se disent, il y en a assez de ce pouvoir-là, on a besoin de démocratie. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, sur les 22 pays arabes, la seule démocratie, on l'espère de toute façon, qui va se construire, c'est la Tunisie. Et tous, ils sont dans la même situation. Alors après, il y a ce qu'on appelle la peur. Pourquoi les Tunisiens ne se sont pas révoltés il y a un an? Tout simplement parce qu'ils avaient peur. Moi aussi, j'avais peur. Si par exemple, je vais crier, non, je ne suis pas d'accord avec Ben Ali et que je risque la prison, ben, je vais dire, non, mais tu continues à travailler tranquillement et on verra ce qui se passe. Et bien, justement, comment vaincre la peur, au fait? Et ben, cette peur-là, elle est vaincue. Pourquoi? Parce qu'on voit son voisin direct, hein, c'est la personne avec qui on travaille, ou on entend parler que quelqu'un qu'on connaît est décédé. Ben, c'est ça qui fait que, de toute façon, on arrive à passer outre cette peur-là. Et à un moment donné, en Tunisie, moi je pense que c'était à peu près début janvier, on a basculé dans un truc où on n'a plus peur, simplement, de dire qu'on n'est pas d'accord avec Ben Ali, qu'on dit tout simplement on n'est pas d'accord sur le fait qu'il se présente en 2014. Parce qu'avant, ils n'arrêtaient pas de nous marteler avec 2014, Ben Ali 2014, c'est le seul choix, l'unique choix, machin, pour la réussite de la Tunisie. Ben, à un moment donné, ben, on n'a plus peur et il va falloir que... Enfin, on a parlé et on a réussi à renverser le gouvernement. Je pense que si on arrive... Les Égyptiens, aujourd'hui, je pense qu'ils ont... Bien sûr qu'ils ont envie que Moubarak dégage. Le problème, c'est qu'il y a une grande partie du peuple égyptien qui n'est pas dans la rue, parce que simplement, ils se disent, mais en fin de compte, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Donc nous, ce qu'on fait, ben, on reste comme ça, tranquille, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que le mouvement va s'essouffler, et derrière, il va y avoir des représailles. L'idée, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout. Nous, les Tunisiens, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ben Ali a très très mal géré ses discours. À chaque fois, il reculait. Et à chaque fois, on se disait, mais en fin de compte, on peut avoir plus. Première fois, il a cédé. Ben, on a continué à demander. Deuxième fois, il cède. On continue à demander. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il recule. Aujourd'hui, le gouvernement de transition, ben, c'est pareil. Il a commencé par mettre un gouvernement de transition avec plein de RCDistes, des anciens du pouvoir. Les gens, ils ont dit non, on n'en veut pas. Ils ont continué à manifester. Ils ont enlevé plein de trucs. Et il y a une frange toujours de la population, à peu près 10%, qui ce que j'appelle vraiment les justes boutistes, qui vont aller jusqu'au bout. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Et je dis justement, heureusement qu'il y a des gens qui sont juste boutistes, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir tout aujourd'hui, et c'est eux qui vont permettre de placer le curseur super loin, parce que de toute façon, si on va un peu loin, ou au moins on aura... Parce qu'il y en a des gens qui se disent, mais franchement, ce qu'on a eu là, c'est très très bien, mais attends, il part en 2014, on aura 3 ans, et après on aura la démocratie. Il y avait plein de gens qui disaient ça. Et il y a plein de gens qui disaient, mais de toute façon, le Premier ministre, mais lui, c'est un bon, c'est pas grave, s'il a travaillé avec Ben Ali, on le laisse. Oui, les anciens du RCD, c'est pas grave, Ben Ali est parti, maintenant, de toute façon, on va les contrôler. Et les justes boutistes, ben, ils disent, non, on n'en veut pas, on veut pas de l'ancien système, on veut aujourd'hui une nouvelle démocratie, on veut plus tourner la page, on veut l'arracher la page. On veut plus travailler avec des gens qui ont collaboré avec l'ancien système, parce que ce sont des gens qui ont tout simplement demandé à ce que Ben Ali reste au pouvoir. Ce sont des gens qui ont incarné le système. Comment aujourd'hui, des gens qui ont incarné ce système d'oppression peuvent prétendre faire la démocratie? C'est ça aujourd'hui vraiment la grande question, c'est comment faire avec les anciens du système, à la fois à la télé, les médias, les anciens qui sont un peu dans le gouvernement, tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment la grande question, comment faire avec cette frange de la population.
Je voudrais poser en question la discussion de ce que tu disais avant, parce que vous avez parlé avec ces grands protagonismes de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes avec les diplômes dans le chômage, pardonnez-moi pour ma français. La question est ça. Dans les mois avant de la révolution tunisienne, nous avons vu en Europe, je pense pour exemple à l'Italie ou à l'Angleterre, nous avons vu pas de révolution, mais il y a eu une très grande mobilisation des gens dans les universités. Et je pense qu'il y a la même composition sociale. Il y a aussi en Italie et aussi en Angleterre, et en part, je pense aussi ici, en France, durant les autunnes, beaucoup de lycéens ils sont allés dans les. Dans les interview and so that ma question c'est là. Tu penses qu'il y a une sorte of non sorry. Il y a une circulation de sa idée de la qualcuno mi può aiutare con la domanda vuole essere questa: c'è stato in qualche modo una forma di contagio o c'è stata una forma di anche di circolazione delle lotte
rispetto alle lotte
che ci sono state in Europa, la stessa una popolazione sociale molto simile di studenti o di giovani laureati senza lavoro, con il peso della crisi molto pesante sulle spalle, sul collo, l'assenza di futuro che è una questione che è ritornata moltissimo nelle
est-ce que c'est passé avec les mouvements étudiants ici dans le cadre de la crise a eu une influence sur ce qui s'est passé entre nous?
Je pense pas.
Quoi?
Les mouvements étudiants, mais aussi les mouvements de l'automne ici. Je veux dire, il y a du mouvement en Europe. À Londres et ailleurs, les jeunes.
Non, mais sincèrement, je pense qu'il y a aucun impact, parce que c'est vraiment
quelque chose de
complètement décorrélé. C'est une étincelle qui a fait. Si Mohamed.
Non, ma question c'est différent. Parce que à la Tunisie, vous avez la révolution, et à l'Angleterre, l'Italie, non. So, c'est pas possible de parler de la même chose.
Il s'est passé des choses là, récemment en Italie ou...
Non, il n'y a pas la révolution.
Il y a eu
des mouvements. La question est la suivante. Évidemment, je te le dis, c'est une déformation des Européens. Les Européens, ils pensent que les autres pays ne peuvent pas faire la révolution. Parce que c'est
un eurocentrisme.
Pas nous. Mais
ouais, je ne suis même pas au courant qu'il y a eu des.
C'est-à-dire qu'en Europe, dans les derniers 30 ans, on a démantelé cette idée qu'on peut changer à travers la révolution. C'est pour ça que maintenant, on est dans cet état, nous aussi. Donc, l'idée est la suivante. La dame dit, est-ce que, vu que dans les dernières années, en Europe, après la crise, après la faillite des grandes banques, donc dans la réalité, après la fin de l'hégémonie culturelle de l'néolibéralisme, ils sont développés des luttes. C'est-à-dire, par exemple, en Angleterre, qu'on pensait que c'était une société calme, les étudiants, ça fait 2 mois, ont fait l'assaut au siège du gouvernement et l'ont mis à sac après l'augmentation des impôts. En Italie, c'est fait longtemps qu'il y a un mouvement qui se bat, les précaires, etc., les étudiants, les ouvriers, etc. En Espagne aussi, donc il y a une circulation en Europe d'une thématique critique. Est-ce que cette thématique, cette critique contre ce système par lequel la crise est un révélateur, a influencé, pas directement, mais à travers la circulation d'idées, a inspiré une révolte?
Non,
ou a contaminé.
Du tout. Moi qui vis en Europe, je suis bien informé, je ne suis même pas au courant de ça. Donc, que dire pour les gens qui
c'est
sont là-bas?
C'est pas bien médiatisé.
De toute façon, même pour nous,
les mouvements en Italie, à part vous qui nous mettez au courant, on est absolument
c'est pas médiatisé, pas
même dans la presse française.
Du tout, alors là.
Et même si on est informé, on va considérer que c'est quelque chose de tout à fait normal. Des manifestations en Europe, c'est quelque chose de tout à fait normal. Des manifestations en Tunisie, par contre, ça, il faut les faire.
Et c'est le pays tout entier, en Tunisie. C'est le pays tout entier qui s'est formidable.
C'est tout le pays, ouais. C'est pour ça qu'on disait travail, liberté, dignité, parce que c'était pas juste le travail. C'est vrai.